Féerie bourgeoise, chapitre 6. En quittant Renault, Bernard Lunéville était très accablé. Il se retrouvait dans la rue par ce soir sombre de février. Il marcha quelques instants au hasard, sans savoir au juste s'il était ou non sur le chemin de son logis. Il oublia de boutonner son pardessus d'hiver. Il ne sentait pas le froid. Il ne songeait qu'à ceci. La chose ne se fera pas. Il faut rapporter à Claire cette mauvaise nouvelle. Les arguments de Renaud ne l'avaient pas convaincu. Il n'était pas prêt, à la première observation, à renier sa vie passée, et il n'entrait en lui aucun doute. Mais il se trouvait tout à coup en présence d'une partie adverse, armée d'arguments qu'il n'avait pas prévus, et qui n'était pas, comme il l'avait cru, disposé à se rendre. C'était moins la valeur des arguments, valeur qu'il niait encore, que la volonté de lutter qu'il effrayait chez ses adversaires. Et puis, quel moyen d'expliquer cela à la petite? Allait-il lui raconter que tous ces gens considéraient son père comme un homme indigne? Il le lui eût dit peut-être, car il ne croyait pas à cette indignité. Mais que l'on pût avoir cette injuste opinion, cela ferait trop de peine à Claire. Et si la jeune fille, mal informée et impressionnée par les déclarations de Renaud, allait partager les idées de ces gens? C'est ainsi que peu à peu s'infiltrait en lui, non pas encore un doute sur lui-même, mais l'impression pénible que sa situation morale n'était pas, aux yeux du monde, aussi inattaquable qu'il l'avait cru. Auprès de qui faisait-il figure de patriarche? Il pensait aux gens qui l'entouraient, aux familiers de son bureau, à d'autres marchands de pierre à qui il venait en aide, à des courtiers flagorneurs. Il s'était grisé de leurs hommages intéressés dans son petit temple clos, dont quelques paroles sarcastiques de Renaud avaient fait tomber les murailles. Mais cette sorte de chute, ce n'était pas ce qu'il y avait de plus douloureux. C'était surtout à sa fille qu'il pensait à ce moment. Qu'est-ce qu'il allait lui dire? Qu'est-ce qu'il allait lui dire? Il n'était pas monté chez lui, parce qu'il n'avait pas encore trouvé ce qu'il pouvait dire à Claire. Lui, Bernard Lunéville, l'homme aux décisions sages et promptes, il se sentait perdu, sans direction aucune. Mais alors, il eut un sursaut d'énergie, comme un cavalier qui rassemble sa bête, la serre dans les jambes et lui donne un point d'appui sur le mort. Voici ce qu'il dirait. Il n'y avait rien à prévoir pour le moment. Renaud lui déconseillait une démarche auprès des parents tant que Georges n'aurait pas été consulté. Et, d'après ce que disait l'écrivain, l'absence du jeune homme ne serait pas longue. Bernard dirait d'abord quelques mois. S'il voyait que la petite trouvait que c'était long, il se dépêcherait de dire quelques semaines. Il se sentait plus solide maintenant qu'il avait tout son plan. Il monta au premier. Sur sa porte, la plaque de cuivre orgueilleuse portait son nom, Bernard Lunéville. Tout de même, il ne suffit pas de faire fabriquer une belle plaque de cuivre à son nom pour être forcément quelqu'un d'important et surtout de considéré. Claire et Tante Louise étaient dans l'antichambre. Claire presque défaillante. « Il y a du monde pour toi dans ton bureau, » dit Louise. Mais la petite était tellement impatiente. « Voilà, » dit Bernard, « rien encore de positif. » Et il dit rapidement ce qu'il avait préparé. Mais ce qu'il avait préparé pour ne pas désespérer sa fille souleva en elle un espoir ardent. Et cet espoir fit mal à Bernard. Il se hâta de passer dans son bureau où l'attendait précisément un de ses courtiers, qu'il détestait maintenant, pour avoir faussé en lui l'opinion qu'il aurait dû avoir de lui-même. Celui-là était un des plus sérieux, un vieillard, originaire de Bayonne, qui, avec sa barbe grise en pointe, semblait une réduction israélite d'Henri IV. Il arborait un nom espagnol magnifique. Il avait déjà apporté pas mal d'affaires à la maison. La plupart de bonnes affaires normales, de marchand à marchand. Mais aussi, quelquefois, il avait présenté des fils de famille gênés, comme le vicomte de Bérin. Et Bernard, maintenant, lui en gardait de la rancune. Ses affaires ne représentaient, somme toute, qu'un très faible appoint dans son chiffre total. Et Lunéville, c'était entendu, continuait à les trouver parfaitement légitimes et corrects. Mais, puisque ce n'était pas l'avis de tout le monde, à quoi bon se faire critiquer? D'autant que ce sont des opérations pleines d'aléas et de déboires. Il y avait longtemps qu'il aurait dû y renoncer. Il s'en voulait de les avoir continués et d'avoir prêté l'oreille aux propositions de ses courtiers. Il n'avait pas la tête à causer longtemps avec celui-ci. Il lui dit de revenir le lendemain matin. Ce soir-là, il se sentait très détaché de ce qui avait été la grande préoccupation de sa vie. On lui avait fait constater qu'un homme riche n'était pas décidément un homme tout-puissant. Il pouvait même n'être qu'un bien pauvre être en certaines circonstances. À quoi bon se donner tant de mal? Cependant, sur le seuil de la porte, il ne put s'empêcher de demander au courtier de lui dire rapidement en quoi consistait l'affaire en question. Pendant tout le dîner, Claire ne cessa de regarder son père et sa tante avec des yeux étincelants. Elle aurait voulu qu'on parlât de l'avenir, qu'on en parlât sans arrêt. Son père ne disait rien. Il n'osait désormais ni exciter ni affaiblir son espoir. Après le dîner, on dut la forcer à aller se coucher. Papa alla lui dire bonsoir dans sa chambre, ainsi que tante Louise. Puis, papa et Louise revinrent dans la salle à manger. « Alors, raconte-moi !» dit Louise. Elle sentait bien qu'il n'avait pas tout dit. « Tu crois vraiment que ça se fera ?» continua-t-elle. « Non, » dit-il brutalement, « ça ne se fera jamais. » Il en voulait à Louise de l'interroger ainsi et de l'obliger à préciser sa mauvaise impression. « Cette petite est pleine d'espoir. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Dans l'état où elle est, il est impossible de lui révéler la vérité. Il faut avant tout tâcher de la remettre sur pied. Et quand elle sera plus forte, on verra. L'impression de monsieur de Sérisier est que jamais les parents ne consentiront à un mariage pareil. « Eh bien, qu'est-ce qu'il en sait ?» dit Louise. « Tais-toi. Il a raison. » Nous ne connaissons pas ces gens-là. Nous ne pouvons pas nous rendre compte des choses. Nous sommes pour eux de petites gens. » Il ajouta avec force, « Nous sommes même des gens indignes. » « Indignes? Toi? Comment peux-tu dire des choses pareilles? » « Je te répète que tu ne connais pas ces gens-là. Alors ne parlons plus de cela, je t'en prie. Je te dirais même que s'il n'y avait pas la question des parents, je ne suis pas sûre du tout que ce garçon consentirait à épouser notre petite. Cela, je ne l'affirme pas, mais c'est une impression que j'ai. Et je crois que c'est l'impression de Sérisier, bien qu'il ne me l'ait pas dit formellement. « Il est certain, dit Louise désemparée, que si ce garçon ne veut pas de la petite, c'est la fin de tout. » La faiblesse de Louise redonna de l'énergie à Bernard. « La fin de tout! La fin de tout! On n'a pas le droit de dire ça! Mais il faut se demander s'il n'y a pas moyen de changer les idées de notre enfant. Pendant le dîner, je pensais à une chose. Si je vous envoyais à Nice toutes les deux? Et toi, qu'est-ce que tu feras pendant ce temps? Tu resteras seule à Paris? C'est de la folie! « Et la maison ?» dit Bernard. « La maison, c'est une question secondaire en ce moment. »« C'est vrai, » dit Bernard, « que j'ai d'autres soucis. Tout de même, ce qui serait le plus raisonnable, c'est que tu partes, toi, avec la petite. Elle t'aime beaucoup. »« Je le sais. Mais ça lui fera plus de plaisir si elle ne te laisse pas ici. Je comprends que tu ne veuilles pas abandonner la maison à ton comptable. Mais moi, je serai tout de même là pour le surveiller.
Qu'est-ce que tu connais aux affaires, ma pauvre Louise ?
Je n'y connais rien, je le sais, mais je peux être assez grande fille pour t'envoyer un télégramme en cas de besoin.
Non, non, dit Bernard, nous ne pouvons pas te laisser seule ici.
Je crois bien, on va me manger. L'après-midi, j'irai faire ma petite partie. Le soir, je me coucherai de bonne heure. Là-bas, vous retrouverez de la société et même de la famille. Est-ce que tes cousins, les Blasques, ne passent pas l'hiver dans le midi ?
Je ne les ai jamais beaucoup vus, dit Bernard.
Ils connaissent pas mal de monde, dit Louise.
Ce qu'il faut, c'est que cette petite se fasse maintenant des relations.
Qui sait si là-bas, elle ne retrouvera pas un autre jeune homme qui lui plaira ?
Dès le lendemain, Bernard s'occupa de l'organisation du voyage.
Chapitre 7. Claire avait accueilli ce projet de départ avec satisfaction. Elle n'en aurait eu aucun plaisir deux jours auparavant. Mais depuis la fausse bonne nouvelle que lui avait apportée son père, tout lui était agréable maintenant. La petite joie qu'elle manifesta trompa Lunéville et lui fit espérer l'impossible. Il crut que peut-être elle allait se distraire et oublier. Ceux qui ne sont plus jeunes et qui ont peu connu les passions s'imaginent facilement que les chagrins d'amour passent vite. Bernard fit choix d'un bon hôtel de second ordre. C'était pour lui un article de foi de considérer comme peu sérieux les hôtels de premier ordre. Il aurait voulu retenir pour la petite un sleeping et pour lui une place de première classe ordinaire. Mais Claire affirma qu'elle n'irait pas en sleeping si son père n'y venait pas aussi. En retenant deux places de wagon-lit, il lui donna une grande preuve d'amour paternel.
Il resterait là-bas tant qu'il faudrait, 6 semaines ou 2 mois. Il ne ferait pas autre chose que de s'occuper de sa fille. Néanmoins, il emporta, à tout hasard, quelques lots de perles et de brillants. Car il y a des bijoutiers sur la Riviera, et même dans l'hôtel où l'on descend, des voyageurs qui aiment à profiter des occasions.
Ils partirent un soir de la même semaine. Claire, pour ses robes, emportait des adresses de couturières de Nice et de Monte-Carlo. Les fournisseurs sont chers, mais, affirmait Bernard, on verrait bien tout de suite qu'ils étaient de Paris, et on ne leur ferait pas des prix d'Américains. Papa promit de s'acheter là-bas une belle casquette. Claire ne voulut pas qu'il emportât celle qu'il avait et qui, après 2 saisons de Dieppe, était un peu fatiguée. Louise, qui était une femme incomparable, avait mis dans le petit sac à main un flacon d'alcool de menthe et, dans la plupart des poches vides, des tablettes de chocolat. Le voyage se passa sans trop de fatigue. Bernard n'eut que des sommes entrecoupées, mais la satisfaction d'orgueil d'être en sleeping lui fit passer une assez bonne nuit. Avant le départ à la gare de Lyon, pendant que tante Louise était avec Claire, il avait longé sur le quai tout le train afin de découvrir dans les simples premières et même en seconde des gens de connaissance et de pouvoir leur dire, sans insister, dans quel wagon il faisait le voyage. L'hôtel de Nice était bourgeois et confortable. De parti pris, la nourriture, le premier jour, fut jugée excellente. Les pensionnaires ? Pas du tout des gens à fla-fla, loin de là, mais vraiment du monde très convenable. Il y avait, entre autres, un commandant et sa femme, et une dame à cheveux blancs, dont le nom s'écrivait avec une particule. Des 2 chambres, Bernard avait tenu absolument à laisser à Claire la plus belle, celle qui donnait sur une rue conduisant à la mer. Bernard avait déclaré d'abord « Nous ne chercherons à voir personne pendant 1 semaine. Du repos pour Claire, du repos. » Mais dès le lendemain, à 9 heures,
ils se mettaient en quête des Blasques, leurs cousins. Il les rejoignit dans un palace qu'ils habitaient, et tout de suite, en entrant dans le hall, il se dit que Claire ne pouvait plus continuer à demeurer dans l'hôtel qu'il avait d'abord choisi. Le monde, peu à peu, se révélait à lui, les palaces après les sleepings. Il s'informa des prix. C'était chaud. Mais étant donné la supériorité d'élégance et de confort, la différence n'était tout de même pas ce qu'elle aurait pu être. Bernard s'en rendit compte et songea au moyen de déménager. Et puis, les Blasques seraient une société pour Claire. Il s'accompagnait d'une jeune fille de 20 ans, une petite noiraude, plutôt laide, mais animée, qui y dansait et connaissait des jeunes gens. Bernard, personnellement, n'aimait pas beaucoup Georges Blasque, un petit gros homme, rose, hâbleur, poseur, joueur. Madame Blasque était une femme étoffée et insignifiante. Elle avait 3 fils et 1 fille qu'elle avait conduit victorieusement, jusqu'à leur âge adulte, à travers des diphtéries, des scarlatines, des bronchites et des oreillons. Elle avait donc donné à la vie ce qu'elle devait, et il n'y avait pas à lui demander par surcroît d'égayer ses contemporains par des remarques pétillantes. Bernard retourna à l'hôtel et dit à Claire « Nous déménagerons. Ici, c'est une boîte. Là-bas, nous serons sur la mer et nous aurons des chambres, je ne te dis que ça. » Il ne lui parla pas trop des Blasques, car depuis quelque temps, il ne savait jamais ce qui lui plairait et ce qui ne lui plairait pas. Claire se trouvait encore dans une période d'espoir où elle accueillait toutes les propositions avec une indifférence heureuse. Elle s'accommoda très bien de la société des Blasques, se laissa emmener par la jeune fille à des thés dansants, mais elle n'y dansa pas. Elle ne savait pas s'il l'aurait aimé ça. Bernard, sa fille remise entre les mains de ses cousins, put s'en aller un peu tranquillement sur la côte. Avec quelques pierres et quelques perles dans les poches de son gilet, il se rendait à Monte-Carlo, à Menton, à Antibes et à Cannes. Bien entendu, il n'était pas question pour lui de faire la place, ce n'était plus de son âge ni de sa situation. Mais il est toujours facile d'entrer chez un bijoutier et de sortir, au cours de la conversation, un brillant ou une perle, sans laisser voir, bien entendu, qu'on en a tout un assortiment. Il déjeunait, la plupart du temps, dans la ville où il se trouvait. Comme on faisait table commune avec les Blasques, Claire n'était pas seule à déjeuner. Les cousins avaient fait connaissance de quelques jeunes gens de Nice, notamment d'un jeune fonctionnaire de 25 ans, un garçon sérieux et timide, qui dansait les danses les plus modernes avec une minutieuse application. Claire semblait lui plaire beaucoup. Il commença à lui faire une cour craintive qu'elle supporta en souriant. Un jeune officier de marine parla toute une soirée à la jeune fille. Il fallait qu'elle eût beaucoup de charme pour attirer les soupirants, car elle n'y mettait aucune coquetterie. Les jeunes gens qu'on lui présentait, elle les regardait sans aucune gêne, avec un sourire poli et franc, sans le moindre souci féminin de s'entourer de mystères. Ces hommages ne lui étaient agréables que parce qu'ils justifiaient sa confiance en elle-même, et parce qu'ils consacraient le pouvoir de celle que Georges avait choisie. Elle fut d'assez bonne humeur pendant une semaine. Puis, elle commença à s'énerver, à s'inquiéter. Bernard ne le remarqua pas tout d'abord. Georges était parti depuis 15 tout de même, et elle s'étonnait de ne rien recevoir de lui. Au bout de 2 ou 3 jours, son inquiétude l'agita tellement qu'elle ne put s'empêcher d'en faire confidence à son père. Il la calma avec toutes les mauvaises raisons qu'il put trouver. Chapitre 8. Un jour qu'il était allé tout seul à Monte-Carlo, il aperçut, devant le casino, une silhouette de connaissance. C'était Renaud de Sérisier, qui était venu passer une 8aine sur la Côte d'Azur. Cette première séance à la roulette n'avait pas été fameuse. Aussi, son accueil fut-il plus distrait que celui de Bernard Lunéville.
« Je suis venu quelque temps sur la côte avec ma petite fille. »«
Ah, et comment va-t-elle ? » demanda Renaud.
« Pas mal, pas mal. Vous savez, elle espère toujours. »
Renaud ne put retenir un mouvement de tête nerveux et ennuyé.
« Qu'est-ce qu'il y a ? »
questionna Bernard avec angoisse.
« Il y a, » dit Renaud, « qu'elle a tort d'espérer. »
Bernard fut comme assommé par ces paroles. Le coup était d'autant plus fort pour lui que depuis quelque temps, il s'était laissé gagner lui-même par la quiétude qu'il feignait devant Claire. Il eut la force de balbutier.
« Vous avez eu des nouvelles ?»«
Je sais que Georges est à peu près fiancé. »«
Ah ?»
dit Bernard d'un petit ton sec et froid. Mais Renaud n'eut que le temps de le retenir, car les jambes lui manquaient, et il allait tout simplement s'étaler par terre.
« Et d'où savez-vous cela ?
D'où savez-vous cela ? » bégaya-t-il, sans même remercier Renaud de l'avoir empêché de tomber.
« Je le sais d'une source malheureusement certaine. Je suis allé dîner l'autre jour chez les Bérin. Je les connais assez peu, je vous dirais. » Car j'ai surtout été l'ami de l'oncle de Georges, celui qui est mort pendant la guerre. Mais enfin, je suis invité chez eux à peu près tous les 6 mois. Cette dernière fois, j'ai l'idée qu'ils tenaient particulièrement à me voir, car ils savent mon intimité avec Georges. Ils voulaient avoir une explication sur son départ pour l'Amérique, qui leur avait semblé un peu précipité. J'ai jugé inutile de leur en donner la véritable raison, du moment que leur fils ne leur en avait pas parlé. Moi, vous comprenez que je me fiche éperdument des Bérin. Il n'y a que Georges qui m'intéresse.
Le comte m'a alors raconté ceci. Depuis longtemps, il était question d'un mariage de Georges avec une petite parente, très titrée, très riche. C'est une toute jeune fille, à peine 17 ans. Georges m'en avait bien dit quelques mots, mais ne s'en préoccupait pas. Il est possible que les 4 parents aient jugé qu'il fallait précipiter les choses et ne pas laisser le jeune homme plus longtemps au lointain, où il risquait de changer d'idée. On lui a télégraphié de revenir en lui disant que c'était pour se fiancer. Il a répondu qu'il allait prendre le bateau. Il est probable qu'il juge, lui aussi, que l'instant est venu de faire une fin.
« De faire une fin ! De faire une fin !» répéta Bernard. « Et vous croyez que je vais tolérer cela ?»
Renaud le regarda avec étonnement. Il avait devant lui un tout autre homme. Bernard lui parlait avec animation, mais sans un geste, et les gens qui les croisaient ne pouvaient soupçonner le sujet presque tragique de leur entretien.
« C'est bien simple, monsieur de Sérisier, c'est bien simple !» S'il arrive malheur à cette petite, je ne vous raconte pas cela pour vous dire des histoires. Je suis à peu près certain qu'elle ne supportera pas ce coup. Si donc il lui arrive malheur, je casserai la figure à ce petit jeune homme. C'est entendu. Vous me l'avez assez répété. La petite n'est pas de son monde et il ne peut pas l'épouser. Mais c'est justement parce qu'il savait cela qu'il ne devait rien commencer avec elle. C'est un monsieur très au-dessus de moi, c'est entendu. C'est un noble, et c'est justement parce que c'est un noble qu'il doit payer ses dettes. Oh, je vois très bien que vous vous dites maintenant « J'ai eu tort de raconter cette nouvelle au père Lunéville. » Monsieur de Sérisier, j'aurais tout de même fini par le savoir. « Ah, mon Dieu !» dit-il, oubliant Renaud. « Qu'est-ce qu'elle va dire quand elle apprendra cela ? Qu'est-ce qu'elle va dire ?» Est-ce que vous croyez que ça va se publier ces jours-ci, ces fiançailles ?
Oh, je ne crois pas, dit Renaud, qu'on l'annonce tout de suite, tout de suite.
Je vais passer des jours abominables avec cette nouvelle au-dessus de la tête de cet enfant. Au revoir, monsieur Renaud,
ajouta-t-il en tendant la main à l'écrivain.
Je vous suis tout de même reconnaissant de m'avoir prévenu. Comme ça, je pourrai chercher à amortir le coup. « Je ne sais pas comment, par exemple. Je ne sais pas comment. Au revoir, monsieur Renaud. »
et il partit prendre son train pour Nice. Il allait d'un pas rapide, parlant tout seul, à voix presque haute. Il disait « Je le tuerai, je le tuerai ». Il aurait voulu l'avoir devant lui pour se délivrer de cette angoisse par un geste de violence, pour n'être qu'une brute emportée qui frappe, frappe et ne réfléchit plus. Mais d'ici là, d'ici qu'il le retrouve, quelles affres auprès de cet enfant qui ne se doute de rien. Sur le quai de la gare, il s'aperçut qu'il se plaignait presque haut, et comme on le regardait, il changea sa plainte en une espèce de fredonnement. Comme on continuait à le regarder, il s'éloigna instinctivement, pour ne pas retrouver dans son compartiment ces personnes à qui il avait paru étrange. Sans doute, elles durent penser qu'une perte à la roulette lui avait troublé l'esprit. Le train entra en gare et se trouva bientôt bondé. Bernard était avec 5 personnes qu'il ne connaissait pas, mais il eût changé sa vie avec n'importe laquelle d'entre elles, même avec un malade, même avec un criminel poursuivi. Ceux-là n'avaient que leur propre malheur à supporter. Chapitre 9. En descendant du train, à Nice, il faisait sombre. Mais dans la glace éclairée qui se trouvait au coin d'une boutique, il vit son visage défait. Oh ! Il ne fallait pas rentrer chez lui avec cette figure. Avec force, il serra les mâchoires et tendit la peau de son front pour se dérider. Claire l'attendait sur le seuil de l'hôtel. Elle avait les yeux pleins de joie. Elle l'emmena dans un coin du hall. Elle retira de son corsage une carte postale coloriée de couleurs vives. C'était une carte d'Amérique qui était passée par Paris et qui était adressée à Mademoiselle Lunéville, rue Réaumur. Cette carte disait « Bon souvenir d'un pays fort intéressant où je ne me plais guère ». Ah, qu'elle voyait donc de choses dans ces quelques mots, et comme sa joie injustifiée fit mal à Bernard. Depuis que Georges lui avait écrit cette petite gentillesse insignifiante, il avait répondu affirmativement par dépêche à sa famille qui lui disait de revenir en Europe pour se fiancer. Pauvre petite Claire! Il fallut aller à table. Les Blasques les attendaient. Il fallut répondre par un sourire complaisant au sourire de Claire quand elle fit circuler la carte à la ronde en disant « Voilà ce que nous avons reçu d'un de nos amis. » Elle alla jusqu'à le nommer. Monsieur Blasque connaissait ce nom-là, mais pour l'avoir entendu prononcer simplement. Et Bernard se disait « Heureusement tout de même que nous ne voyons pas des gens de ce milieu et qui pourraient parler devant elle des fiançailles prochaines de ce garçon. » Il se dit que tous les matins, il descendrait au salon de lecture de l'hôtel afin de lire dans les journaux le courrier mondain où l'on annonce les fiançailles. Il avait l'habitude de le parcourir ainsi à Paris quand il s'agissait de signaler à ses courtiers telle maison noble ou de haute bourgeoisie où l'on se préoccupait d'une corbeille de mariage. Maintenant, ses communiqués, il les lisait pour une autre raison. À partir du lendemain matin, il passa au crible les quelques quotidiens et les périodiques élégants qui enregistrent les événements de ce genre. Et il se sentait un peu plus tranquille jusqu'au prochain courrier. Pendant 2 jours, il eut une inquiétude, parce que sa fille devait assister, avec les Blasques, à une fête de charité où sans doute se trouveraient des gens du monde. Qui sait si une conversation saisie au passage n'allait pas apprendre l'événement à Claire, ou bien si les Blasques, à leur retour de la fête, ne rapporteraient pas quelques propos entendus. C'étaient des hypothèses peu vraisemblables, mais tout lui faisait peur. Pas un instant, il faut le dire, l'idée ne lui vint de se débarrasser de son secret pour abréger sa torture. Toute heure mauvaise pour lui était une heure d'heureuse ignorance pour la petite. D'autres alertes l'agitèrent. Un matin, les journaux ne se trouvaient pas au salon de lecture. On était venu les prendre pour les porter à l'appartement d'un ministre arrivé la veille à l'hôtel. il rencontra au salon de lecture un vieux monsieur, matinal comme lui, et qui venait tous les jours à la même heure parcourir les feuilles publiques. Il était en train de faire sa pâture d'un journal illustré, et c'est lui qui expliqua à Bernard pour quelles raisons les quotidiens avaient disparu. « J'ai pu les voir tout à l'heure, rapidement, avant qu'on les emporte. Y a-t-il quelque chose qui vous intéresse particulièrement ?»«
Non, » dit Bernard du ton le plus détaché. « Seulement une petite nouvelle mondaine, à la rubrique où l'on annonce les fiançailles des gens du monde. »«
J'ai parcouru cette rubrique, » dit le vieil homme. « Qu'est-ce que vous auriez désiré savoir ?»«
Je voulais voir simplement si l'on n'y mentionnait pas le nom d'une personne de ma connaissance. »«
Bérin, » dit-il avec une légère hésitation. Le petit vieillard scruta ses souvenirs. « Je crois bien, » dit-il, « je crois bien avoir vu quelque chose de semblable. » Course affolée de Bernard chez un marchand de journaux. Il achète 3 ou 4 feuilles, mais ce n'est qu'une fausse alerte. La nouvelle qu'il craignait n'est mentionnée nulle part. Cependant, Louise, à qui l'on avait demandé de venir passer 8 jours avec eux, annonçait son arrivée pour le lendemain. Si faible fut-il, c'était un soulagement pour Bernard. Il aurait quelqu'un à qui confier son anxiété. Bernard et Claire allèrent chercher la tante à la gare. Louise trouva la jeune fille transformée. Claire tenait sa carte postale à la main pour la lui montrer plus vite. Pourtant, elle avait déjà écrit à Paris, à sa tante, pour lui en parler. Bernard, devant sa fille, s'efforçait de donner de la gaieté à son morne visage. Mais tout de même, sa mine n'allait pas avec celle de Claire, et la tante le remarqua, car lorsqu'elle se trouva seule avec son beau-frère, elle lui dit « Je la trouve très bien. Comment se fait-il que toi tu n'aies pas l'air plus content ?» Il lui raconta ce que Renaud lui avait appris. « Ah, mon Dieu !» fit cette pauvre Louise. Et ce fut pour Bernard un redoublement d'angoisse de l'avoir ainsi bouleversée. Peut-être avait-il espéré qu'elle s'effraierait moins que lui et lui donnerait quelques raisons pour se rassurer un peu. Quel voyage pour Louise, qui se réjouissait de visiter la Côte d'Azur où elle venait pour la première fois. Du coup, elle n'avait plus envie de rien voir. On avait projeté une excursion à Monte-Carlo pour le lendemain. Il se trouva que la petite Blasque avait invité des amis à un thé et qu'elle voulut avoir Claire. Louise demanda à remettre l'excursion, mais Bernard lui dit que ce serait une excellente occasion pour elle et lui de causer un peu sans être gênés par la petite. Ils déjeunèrent donc le lendemain de bonne heure avec Claire et s'en allèrent prendre leur train, tandis que la jeune fille, selon son habitude, montait se reposer un peu dans sa chambre. Elle était là, toute seule, depuis une demi-heure environ, quand un chasseur frappa à la porte et lui remit la carte d'un monsieur qui demandait à lui parler. Chapitre 10. Les yeux de Claire restaient attachés sur cette carte, sur ce nom, si imprévu, si miraculeux, qu'elle ne le reconnaissait plus. Le seul être qui occupait sa pensée avait franchi en un clin d'œil une immensité de lieux et se trouvait maintenant dans le hall de l'hôtel. Le chasseur attendait. « Mademoiselle peut-elle recevoir ce monsieur ?» Elle eut à peine la force d'incliner la tête, et le chasseur disparut comme un page de conte de fées. Renaud de Sérisier, qui voulait que Georges se détachât de Claire, lui avait-il donné le bon moyen? Le souvenir de la jeune fille avait d'abord simplement accompagné le jeune homme sur le navire comme un regret délicieux qui ornait sa vie et ne lui faisait pas de mal encore. Il se croyait plus solide et ne chassait pas cette jolie image. Mais Claire s'installait auprès de lui et doucement l'avait emprisonné. Il n'avait eu d'elle que si peu de choses. Il lui restait tant d'elle à connaître. À bord du bateau, dans une compagnie d'acteurs qui s'en allait en Amérique, Georges vit une jeune femme qui ressemblait beaucoup à Claire Lunéville. Il s'arrangea pour faire connaissance avec elle, lui parla quelques instants, mais il s'aperçut bien vite que ses yeux ne ressemblaient pas à ses tendres yeux de Claire, que l'on ne pouvait oublier dès qu'on avait connu une seule et furtive fois leur façon d'exprimer l'espoir et le bonheur. Un jour, pendant la guerre, il avait rencontré une autre jeune fille qui, elle aussi, avait un peu le visage de Claire. C'était une servante d'auberge, sans rien de grossier, une réfugiée sans doute, qui gagnait sa vie comme elle pouvait. Elle avait une petite bouche aux lèvres un peu larges, une de ces bouches où la doublure dépasse, comme avait dit un camarade de Georges. Oui, celle-là était bien de ce type de femme que Georges avait toujours aimée, mais que Claire seule réalisait à la perfection. Il n'était à New York que depuis très peu de jours, quand il reçut la dépêche où ses parents lui demandaient d'abréger son voyage. Dans ce télégramme, il était question de mariage, mais non de façon absolument formelle. Et son télégramme de réponse, où il annonçait son retour, n'avait pas, à vrai dire, ce caractère d'acquiescement à leur projet que ses parents avaient cru y lire. En l'esprit de Georges, il n'y avait, par exemple, aucun doute. S'il rentrait à Paris, c'était pour revoir Claire. Sa liaison avec son ami du monde n'était que d'une importance secondaire. Avant son départ, il avait même appris que la jeune femme flirtait assez vivement avec un jeune aviateur. Et cette nouvelle, qui l'eût sérieusement énervé quelque temps auparavant, lui fit plutôt une sorte de plaisir. Plaisir un peu mêlé, sans doute. Mais l'idée d'un grief et d'un prétexte de séparation ne lui était pas désagréable. Il était plein de joie et d'impatience quand il reprit le paquebot pour l'Europe. Qu'allait-il se passer? Il n'en avait aucune idée précise. Il se disait simplement qu'il reverrait la jeune fille. Il n'avait jamais envisagé l'idée de l'épouser. Peut-être, si cette idée s'était présentée, ne l'eût-il pas retenu un instant, car il ne lui était jamais venu à l'esprit que la fille de Bernard Lunéville pût devenir la vicomtesse de Bérin. Il ne se disait pas non plus que Claire serait sa maîtresse. Non, il voulait la voir. Il voulait ne plus être séparé d'elle. C'était un jeune homme d'un caractère docile. Lorsque Renaud lui avait dit de s'en aller, il était parti. Maintenant, il avait un autre maître à qui obéir, son désir de revoir la jeune fille. Il débarqua du train transatlantique à la gare Saint-Lazare, de très bonne heure le matin. Il se fit conduire chez ses parents. Il eut une brève entrevue avec son père et sa mère et leur déclara qu'il n'était pas disposé à se marier pour le moment. Son père commençait à discuter. Georges demanda alors un peu de répit, quelque temps de réflexion. Ensuite, sans se mettre au lit, bien qu'il vînt de passer une nuit assez fatigante, il fit une toilette rapide, changea son costume de voyage pour des vêtements de ville et partit vivement en taxi jusqu'à la rue Réaumur. Là, il apprit de la concierge que les Lunéville étaient dans le Midi. Il obtint leur adresse exacte et décida qu'il prendrait le soir même le train de la Côte d'Azur. Dans l'après-midi, il se mit à la recherche de Renaud, mais l'écrivain était toujours à Monte-Carlo. Le fait d'avoir abrégé son séjour en Amérique avait laissé à Georges quelques billets de 1000 de reste, de sorte qu'il n'avait pas de démarche à faire pour se procurer de l'argent, ce qui, en l'absence du tutélaire Renaud de Sérisier, eut présenté quelques difficultés. Il passa au domicile de son amie, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, mais elle aussi avait quitté Paris, ce qui simplifiait délicieusement les choses. La séparation avait bien rapproché les deux amoureux. S'ils avaient passé l'un près de l'autre ces dernières semaines, peut-être se fût-il produit entre deux des hésitations, des froissements, des manques de coïncidence dans leur bonne disposition vis-à-vis l'un de l'autre. Mais, séparé ainsi de Claire, chaque fois que Georges sentait monter en lui un élan d'amour, c'était toujours une Claire tendre, amoureuse, abandonnée, qu'il avait entre ses bras. De sorte que le chemin qu'ils avaient fait l'un vers l'autre avait été plus prompt, étant plus débarrassé des obstacles que la coquetterie des femmes et l'ardeur maladroite des hommes sèment d'ordinaire sur les routes les plus lisses et les plus fleuries. Le jour fameux de cette entrevue inoubliable, qui avait précédé de si peu le départ de Georges, au cours de ces 3 heures rapides et enchantées que les deux jeunes gens avaient passées ensemble, Georges, à un moment furtif, sans presque s'en rendre compte, avait effleuré d'un baiser la joue de Claire. Mais, si bref qu'il eût été, ce moment avait marqué profondément dans leur mémoire, et en imagination, ils l'avaient vécu l'un et l'autre tant de fois que ces souvenirs communs avaient créé entre eux une tendre intimité. Trouvant Claire à Nice, seule avec lui dans cette chambre, Georges s'était approché d'elle et avait posé ses lèvres au même endroit, juste sur la joue, auprès de la paupière. Il avait pris Claire dans ses bras pour la première fois et avait senti contre lui ce corps frêle et ses épaules si étroites que ce geste d'amour devint aussi comme un geste de protection. Tout cela se passait sans mot dire, sans protestation, sans même qu'elle lui demandât « Pourquoi êtes-vous parti ?» C'est qu'ils avaient beaucoup songé l'un à l'autre, sans pour ainsi dire s'être parlé, et qu'il n'existait pas pour eux de paroles familières, coutumières, qui fussent assez intimes pour être à l'unisson de leurs pensées. Étreinte par Georges, Claire avait presque défailli, car elle n'était pas encore bien solide. Il s'était assis chastement sur le lit, parce que c'était là le siège le plus proche. Puis il lui avait pris les mains, qu'il lui serrait à peine, mais c'était entre eux un lien aussi doux qu'indissoluble. Elle n'avait demandé aucune explication. C'était lui qui se confessait ingénument, sans aucune réticence, et qui lui dit pourquoi il était parti, pour s'écarter d'elle, pour la fuir, parce qu'il l'aimait, et que Renaud lui avait dit qu'il ne pouvait pas l'épouser. Renaud lui avait fait peur, lui avait fait entrevoir toutes sortes de graves conséquences. Il ajouta tout de suite, car il avait hâte de le dire, qu'à peine hors de France, il avait compris qu'il ne pouvait pas vivre séparé d'elle. Il était donc revenu, aussitôt qu'il avait pu, profitant de ce que ses parents l'avaient rappelé pour le marier. Mais il n'épouserait jamais aucune autre femme que Claire. Leur union serait-elle jamais possible ? Il savait seulement qu'il ne serait jamais qu'à elle. Elle lui dit qu'elle était très heureuse, qu'elle éprouvait un bonheur qu'elle n'aurait pu imaginer. Il ne fallait pas pour le moment parler d'avenir. Elle ne lui demandait pas de l'épouser. Elle ne voulait plus qu'il s'en allât. Voilà tout. Ce n'était pas du tout la jeune fille émancipée et libre capable de lui dire « Je veux être à vous ». Non. Cette idée, elle ne la réalisait pas pleinement. Elle sentait seulement qu'elle était décidée à le suivre partout où il voudrait, puisqu'elle l'aimait, et sans se demander où cela pourrait les conduire. Quand il lui proposa de partir avec elle, tout de suite elle accepta. Cette résolution, la plus libre, la plus dégagée de préjugés, la plus romanesque, se trouvait être, à cet instant, la plus raisonnable. Et on peut même le dire, la plus pratique. Bernard certainement aimait sa fille, et Claire aimait vraiment son père, mais il importait de ne pas attendre qu'il résistât ou qu'il condescendît à une aventure qui ne le regardait pas. Elle écrivit seulement ce mot sur une feuille de papier qu'elle mit dans une enveloppe. « Père chéri, pardonne-moi, mais il est revenu. Il m'a demandé de partir avec lui. Je l'aime tant et il m'aime tant que je n'ai pas voulu ni pu lui résister. » Certainement, Bernard ne rentrerait pas avant la tombée de la nuit, et ils avaient 2 heures devant eux. Mais si M. Lunéville abrégeait son voyage, s'il revenait inopinément? Claire se prépara en toute hâte, boucla une petite valise tant bien que mal. D'ailleurs, il n'avait pas besoin d'aller loin. Il prendrait une auto et se ferait conduire dans les environs, à Cannes. Il s'arrêterait provisoirement dans une des localités de la côte. Si tendre et si profonde que fut l'affection de Claire pour son père, il était pour l'instant l'être qu'il fallait éviter. C'est ainsi qu'aux grandes manœuvres, le frère d'armes qui porte un manchon blanc devient l'ennemi. Sa personnalité disparaît. On ne voit plus que le manchon blanc. Claire écrivit aussi un mot pour Mademoiselle Blasque qu'il avait invitée à goûter. Elle recommanda bien de ne porter ce mot que très tard, quand la jeune fille aurait déjà des invités autour d'elle qui la retiendraient et l'empêcheraient de venir demander des nouvelles de l'absente. Puis elle et lui s'en allèrent, soulevés de bonheur. Ils quittèrent l'hôtel et partirent vers un avenir complètement incertain, mais étincelant d'espoir. Il était près de 7 heures quand Bernard Lunéville et sa belle-sœur revinrent de Monte-Carlo. Contrairement à leur habitude, ils avaient pris une voiture pour venir de la gare. Ils avaient les jambes brisées de fatigue et d'angoisse. Le fardeau qu'ils portaient à eux deux n'avait pas diminué de poids pour Bernard. La douleur d'un père ou d'une mère, et vraiment Claire aimait Louise comme son enfant, est une douleur sans mélange. Elle est abominablement triste et laide. Elle ne comporte pas, comme d'autres souffrances, une âcre satisfaction. L'amour paternel ou maternel vous fait souffrir dans un être séparé de vous, à un endroit où votre fermeté d'âme ne peut accompagner votre sensibilité. Depuis 2 heures, Bernard et Louise ne se parlaient plus. Ils avaient comme un obscur besoin de se ménager l'un l'autre, vieille créature usée, impuissante à recevoir les joies de la vie et toujours sensible pour en ressentir les coups durs. « Louise, dit Bernard, nous prenons l'ascenseur. « Je crois, murmura-t-il, que nous ne sommes vaillants ni l'un ni l'autre. » L'ascenseur était en haut. Pendant qu'il sonnait le préposé, Bernard dit encore à Louise « Tous les soirs, j'ai peur de rentrer. Je me dis, est-ce qu'elle va avoir appris quelque chose ?» Arrivés à l'étage, ils s'en allèrent lourdement vers leur chambre. Bernard et sa fille en occupaient deux, et on avait pu en trouver une autre pour Louise, dans le même couloir et presque en face. « La petite, dit Bernard, doit être en train de goûter chez les Blasque. » Louise s'en alla chez elle. Bernard gagna sa chambre et, par acquis de conscience, ouvrit la porte de Claire. Il aperçut, bien en évidence, une lettre posée sur la cheminée et appuyée contre la pendule. Il vit tout de suite que c'était une lettre de Claire. Il lui vint à l'esprit l'idée la plus abominable. Peut-être avait-elle appris la nouvelle, et n'avait-elle pu la supporter? S'il ne défaillit point, c'est qu'il fallait ouvrir la lettre, et savoir. Quand il l'eut ouverte, et lut, il la relut. Il n'y avait sur le papier que ces 3 ou 4 lignes, et l'on avait beau tourner et retourner la feuille dans tous les sens, elle ne disait rien d'autre. Bernard s'assit, puis se leva avec une agilité relative, car il fallait tout de même parler de la chose à Louise. Il alla la retrouver dans sa chambre. Elle était dans son cabinet de toilette, en train de passer un peignoir, car elle avait déclaré qu'elle était trop fatiguée pour descendre dîner. « Dépêche-toi un peu, » dit Bernard, « j'ai quelque chose à te montrer. » Il ne disait pas cela d'une voix alarmée, mais c'était sans doute qu'il ne voulait pas effrayer cette pauvre fille. Elle arriva en boutonnant sa robe de chambre. Il lui tendit le papier. « Regarde, » dit-il d'un ton presque froid, où il y avait comme une amertume ironique. Elle lut la lettre 2 fois. Elle ne regardait pas Bernard et hochait la tête. « Crois-tu qu'il nous en arrive ? » dit-il. « Est-ce assez complet ?»« Tu peux le dire, » fit-elle. Ils se mirent à échanger des récriminations contre le sort. Mais, chose curieuse, leur plainte n'avait pas le même ton que celle de l'après-midi. D'ailleurs, il parlait beaucoup plus, et c'était à qui ferait le plus de phrases. Il parlait de familles déshonorées, d'enfants ingrates. Et puis, Bernard se mit à dire qu'il avait faim. C'était bien bizarre, car les jours précédents, il avait joliment manqué d'appétit. « Que veux-tu ? » dit Louise. « Je vais mettre une robe. Je ne veux pas te laisser aller dîner seule. » Elle était d'ailleurs moins fatiguée. Ils décidèrent qu'ils ne dîneraient pas à l'hôtel pour ne pas être obligés de raconter des histoires au Blasque. Mais il ne manquait pas de bons petits restaurants dans Nice. Quand Bernard fut habillé, il frappa à la porte de Louise, qui était prête aussi. « On va certainement, » dit Bernard, « rencontrer les Blasques dans le hall de l'hôtel. Qu'est-ce qu'on va leur dire pour leur expliquer qu'on ne dîne pas avec eux ce soir et que la petite n'est plus ici ?» Il recommençait déjà, sans s'en apercevoir, à dire « la petite » en parlant de la fille ingrate et coupable. « J'y ai pensé, » dit Louise. « Eh bien, une de tes sœurs, Sarah ou une autre, peut être arrivée, soi-disant, à Marseille avec ses enfants, et elle t'aura demandé de lui envoyer Claire pendant quelque temps. « Dis-leur cela, veux-tu, parce que moi, tu sais, ce n'est pas bien mon affaire de raconter des histoires. » Ils s'étaient installés maintenant l'un en face de l'autre à une petite table dans un restaurant niçois. Ils ne parlaient pas beaucoup depuis quelques instants. Ils commençaient à être un peu las de flétrir les enfants dénaturés et de se demander ce qu'eux-mêmes avaient fait au bon Dieu. Il est possible que Bernard et Louise n'auraient pas été, dans leurs propos, aussi sévères pour Claire s'ils ne s'étaient fait un peu peur l'un à l'autre. Ils ne savaient pas s'ils se toléraient mutuellement un peu d'indulgence. Au bout d'un instant, Bernard ne put s'empêcher de dire « Je suis très fâché contre elle, mais ce qui diminue un peu ma colère, c'est que j'ai vu à quel point cette petite était préoccupée de ce garçon. » « Vois-tu que je n'ai rien su de ses sentiments et qu'un jour j'ai appris brusquement que ma fille était partie avec un jeune homme. « Si tu n'avais pas été au courant, elle ne serait peut-être pas partie. « Elle a pu se dire que nous étions déjà un peu préparés à un coup de tête de sa part. « Ah, ma pauvre Louise, mes angoisses à l'idée que tout à coup elle pouvait apprendre ses fiançailles. « Quand je pense que tous les matins... « Moi qui maintenant me lève difficilement, qui suis un peu engourdi, c'est l'âge. Il fallait sauter en bas du lit pour aller lire les journaux, de façon à prévenir le coup. Je te dirai que pendant tous ces jours, j'étais hanté par l'idée de la voir se tuer. Alors, si effroyable que soit ce qui nous arrive, j'ai la lâcheté de me dire que ce n'est peut-être pas aussi abominable que ce qui aurait pu nous arriver. » « Oh, tu as raison !» dit Louise, beaucoup moins chaleureusement qu'elle n'aurait voulu le crier. Quand il pensait « Ma fille a été enlevée par un jeune homme », aucune évocation d'un rapprochement physique ne hantait l'esprit de Bernard, qui avait été dans sa vie plutôt chaste, et en tout cas l'était sérieusement devenu. Par contre, l'idée de l'opinion publique l'occupait. « On va nous jeter la pierre quand ça finira par se savoir. Pour ma réputation personnelle, je te dirai que ça m'est égal. Je te raconterai dans le détail certaines conversations que j'ai eues avec M. Renaud de Sérisier, qui prouvent que, même si on a la conscience d'avoir été correct pendant toute sa vie, ça n'empêche pas les gens de concevoir de vous une mauvaise opinion. Alors, tu comprends ce qu'on peut raconter sur mon compte maintenant ? « Mais c'est pour cette petite, que veux-tu? Nous savons qu'elle a tout de même des excuses, ce qui n'empêchera pas les gens de baver sur son compte. » Il n'y avait rien à dire à cela. Louise se borna à esquisser un geste vague qui signifiait peut-être « Que veux-tu? On ne peut pas empêcher le monde de parler. » Mais depuis quelques instants, ils avaient quitté le siège du ministère public et la prévenue, la réprouvée, était devenue peu à peu leur cliente, qu'il s'agissait maintenant de défendre contre l'injustice des hommes.